c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Mignet, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, l'armée du Kosovo qui provoque la colère du voisin serbe.
Colère et inquiétude de la communauté internationale, colère de la Serbie et Russie. Malgré la réunion du Conseil de sécurité lundi, la création de cette armée du Kosovo décidée la semaine dernière ne fait pas l'unanimité à l'étranger, même si elle est plutôt saluée par la majorité de la population. Bonjour Nathalie Duclos.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous êtes maître de conférence à Tours, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique de Nanterre, auteur récemment des Courtiers de la paix, les vétérans au cœur du State Building international du Kosovo. Alors justement, là, après 10 ans après la déclaration d'indépendance, ce serait la déclaration d'indépendance militaire, puisque, il faut le rappeler, le Kosovo, petit pays d'1,8 million d'habitants, a déjà une force opérationnelle de 2500 hommes. Alors, Nathalie Duclos, s'agit-il justement d'une déclaration de souveraineté symbolique ou réellement d'une posture plus agressive du Kosovo?
Alors, il y a une bonne part de rhétorique. L'idée de déclaration, de création d'une armée est en partie fausse en ce sens qu'il existe déjà une force qui est appelée la force de sécurité du Kosovo. Et cette force de sécurité du Kosovo, elle a été créée en réalité dès après la guerre au Kosovo, dès 99. Elle s'est d'abord appelée le corps de protection du Kosovo et ensuite la force de sécurité du Kosovo. Alors, il est vrai que les missions assignées aujourd'hui à l'armée, du moins telle qu'énoncée dans la loi qui a été adoptée vendredi 14 décembre par le Parlement du Kosovo, les missions assignées sont un peu différentes puisque désormais il est prévu que cette force devra assurer l'intégrité territoriale du pays, également qu'elle apporte un soutien militaire aux autorités civiles en cas de catastrophe, qu'elle participe à des opérations internationales, vraisemblablement principalement des missions de paix, des opérations multilatérales. Donc de ce point de vue, on voit clairement que c'est une force qui a pour objectif de défendre le territoire, ce qui est nouveau. Jusqu'à présent, c'était l'OTAN qui avait en charge cette mission.
Via la KFOR.
Via la KFOR, tout à fait. La KFOR est toujours présente au Kosovo. Si bien qu'en réalité, les choses ne changent pas véritablement. La KFOR n'a pas été mise dehors, donc la KFOR étant toujours là, selon toute vraisemblance, ce serait plutôt elle qui serait en mesure éventuellement de défendre l'intégrité du territoire. Donc il y a une dimension de proclamation nouvelle, une dimension symbolique, mais dans les faits, les choses ne sont pas véritablement changées. Alors, toutefois, c'est vrai que la dimension militaire est plus affirmée aujourd'hui avec ce texte de loi.
Parce qu'il y a quand même eu une augmentation conséquente du nombre d'hommes. On passe donc de 2500 fixes à 5000 fixes, plus 3000 en réserve. C'est plus de 3 fois plus.
Oui, c'est vrai, mais c'est un horizon de 10 ans. Donc dans l'immédiat, les chiffres sont les mêmes. Dans l'immédiat, c'est en fait une simple transformation. C'est la force actuelle, la force de sécurité actuelle, qui se voit désormais baptisée armée.
Donc il n'y a pas de changement opérationnel majeur, on pourrait dire, avec cette création qui n'en est pas une vraiment.
Dans l'immédiat, il n'y a pas de changement opérationnel majeur. Non, l'OTAN garde son rôle, l'OTAN est présent donc depuis 99. C'est l'OTAN qui a recruté les membres de cette force et c'est l'OTAN qui a formé en grande partie militairement les membres de la force de sécurité du Kosovo. Et c'est l'OTAN qui continue d'assurer l'encadrement de cette force.
Et n'empêche qu'il y a eu plusieurs avertissements, en tout cas de l'Union européenne et de l'OTAN qui appelaient à au moins reporter cette décision, ne pas la faire tout de suite. On peut être surpris dans ce contexte diplomatique tendu depuis le blocage des négociations avec la Serbie que le Kosovo ait poussé avec une certaine hâte finalement pour la création de cette armée.
Alors hâte peut-être sous certains aspects, mais sous d'autres aspects, il ne faut pas perdre de vue qu'il avait été prévu dès 2013 que la force de sécurité du Kosovo devienne une armée. Donc cela a déjà été repoussé. Parce que cet horizon de souveraineté qui suppose une armée, il est présent pour les Kosovars depuis 1999 en réalité. Lorsque le corps de protection du Kosovo a été créé en 1999, c'était avec l'idée d'en faire une armée. Lorsque ce corps a été transformé en force de sécurité du Kosovo en 2009, l'idée de que ce soit l'élément de souveraineté, l'armée du Kosovo est toujours extrêmement présente. Donc sans discontinuer, depuis 1999, les Kosovars envisagent ce corps comme la future armée du Kosovo. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu de précipitation de ce point de vue si on repense au temps long de cet investissement par les acteurs locaux de la force.
Et c'est ce qu'a semblé vouloir indiquer d'ailleurs d'ailleurs le président Hashim Thaçi, je le cite, « Après deux décennies de dur labeur, nous achevons enfin le processus de construction d'un État ». Est-ce que c'est aussi votre analyse que c'est cette pierre qui manquait à la construction d'un État dont on sait qu'il n'est pas complètement non plus opérationnel
ou... À l'évidence, c'est un élément de souveraineté pour tout État par le monde. Mais il est vrai que cela vient compenser une faillite de légitimité ou un défaut de légitimité du Kosovo qui n'est pas reconnu pleinement par l'ensemble de la communauté internationale, qui s'efforce d'intégrer un certain nombre d'organisations internationales mais qui n'y parvient pas pleinement. Récemment, par exemple, le Kosovo a essayé d'intégrer Interpol et n'a pas pu obtenir cette reconnaissance-là.
D'où d'ailleurs de nouvelles tensions avec la Serbie.
D'où de nouvelles tensions qui peut-être expliquent en partie le fait que la proclamation d'une armée a été faite aujourd'hui, parce que à la suite de ce refus par Interpol, refus analysé par les Kosovars comme étant le fait de la Serbie qui fait campagne contre le Kosovo à chaque fois que le Kosovo s'efforce d'intégrer une nouvelle organisation internationale. À la suite de cela, le Kosovo a décidé d'augmenter ses droits de douane vis-à-vis des produits venant de Serbie.
Oui, à 100% d'ailleurs.
De 100%, alors 10% en un premier temps, 100% ensuite, effectivement. Et cela a provoqué le départ de la coalition au pouvoir, le départ de députés serbes qui constituaient un appoint extrêmement utile. Et aujourd'hui, le gouvernement est en minorité. Si bien qu'il y a éventuellement un risque de renversement de ce gouvernement, même si l'opposition ne réussit pas à s'assembler pour le renverser, mais en tout cas le gouvernement est aujourd'hui en minorité, et déclarer que le Kosovo dispose désormais d'une armée, c'est une excellente façon de permettre que tout le monde se soude derrière l'exécutif, puisque, il faut tout de même le souligner, il y a là quelque chose, un objectif, un projet qui fait consensus. On souligne souvent à raison les divisions internes au champ politique kosovar, divisions héritées de l'opposition entre les partisans de la non-violence et les partisans de la lutte armée, qui se joue aujourd'hui entre une opposition entre la LDK et le PDK, PDK étant le parti issu de la lutte armée et la LDK étant le parti issu du mouvement de résistance pacifique. Donc on souligne souvent ces divisions, mais sur la question de la souveraineté, de l'indépendance en 2008, de l'armée aujourd'hui, on a un consensus et ce sont 105 députés sur 120 qui ont approuvé cette loi proposée le 14 septembre dernier.
Et alors justement, c'est effectivement une grande majorité, alors même que ces 10 députés serbes ont boycotté le vote.
Absolument.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une décision à double tranchant avec cette armée, un peu un saut dans le vide, puisque encore une fois, avec ce boycott des 10 députés, c'est une décision qui est, je crois, inconstitutionnelle du point de vue kosovar, vous allez peut-être pouvoir me répondre là-dessus, et il y a encore ce défaut de légitimité internationale patent, c'est ce qu'a dit la Russie en tout cas, que la création de cette armée n'était pas conforme à la résolution ONU 1244 prise à l'époque, justement.
Oui, mais on a toujours des défis, des mises en doute de la légitimité. C'était déjà le cas lorsque le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Et d'ailleurs, à la demande de la Serbie, la Cour internationale de justice a été amenée à se prononcer sur la légalité internationale de cette proclamation d'indépendance. Et elle a confirmé que cette proclamation d'indépendance était légale. Dès lors, proclamer que l'on dispose d'une armée s'inscrit dans la continuité d'une souveraineté reconnue.
Bon, et alors, dernière chose, d'un point de vue plus diplomatique, est-ce qu'il y a réellement un gain pour le Kosovo avec ce coup de revolver à l'appel, comme l'appelait justement le porte-parole de la minorité serbe à l'Assemblée, lui qui s'inquiétait que cette armée puisse être un facteur de division parce que non inclusive éventuellement, et puis parce qu'on voit qu'elle braque quand même beaucoup la Serbie, qui a fait retentir des bruits de bottes avec des visites du président Vučić dans les unités serbes près de la frontière récemment?
Oui, mais souvent, ce sont des gesticulations qui, il s'agit de montrer son désaccord, il s'agit de théâtraliser, et on s'aperçoit que ça n'empêche pas que par la suite, il y ait des rapprochements, il y ait des négociations. Par exemple, le dialogue entre la Serbie et le Kosovo a débuté en 2012, alors que lorsqu'il y a eu proclamation de l'indépendance, les Serbes avaient proclamé à quel point ils étaient absolument hostiles à cette évolution, combien ils se sentaient en danger. manger. Donc voilà, donc il y a aussi des jeux de rôle hein, à chaque fois dans ces situations-là. Les Serbes qui sont au Kosovo, qui intègrent, enfin qui sont représentants du Kosovo, ou ceux qui sont membres de l'AFSK ne sont pas non plus complètement libres de leur mouvement. Ils sont assez largement activés par la Serbie. Donc il y a parfois des postures qui ne sont que pour marquer des moments et par la suite, les choses rentrent dans l'ordre.
Bon, et Hashim Tachi a dit que cette armée, en tout cas, était irréversible. Le président serbe Vučić a dit qu'avant toute négociation, il faudrait que cette armée ne soit plus. Quelle possibilité d'un déblocage de la situation, selon vous ?
Dès lors qu'il y a eu proclamation d'une armée, il n'est pas possible, il n'est pas envisageable de revenir sur une déclaration. Après, il peut y avoir des gestes d'apaisement qui soient donnés sur les intentions, sur le fait que la montée en puissance ne soit que progressive, puisqu'on est à 2500 hommes et plus tard, on passera à 5000. Donc, il peut y avoir des gestes de reconstruction de la confiance qui soient donnés du côté kosovar pour souligner du côté serbe à quel point cette déclaration n'est pas hostile. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier non plus que un certain nombre de pays clés ont tout de même soutenu la démarche du Kosovo et avant la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier, ont fait une déclaration conjointe rappelant le droit du Kosovo à disposer d'une armée, son droit souverain, et soulignant le fait qu'il ne s'agissait pas d'une logique guerrière, d'une logique conflictuelle derrière cette déclaration.
Eh bien, ce sera à suivre. Merci Nathalie Duclos.